Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet, c'est les émotions. En fait, il s'agit du bandeau de couverture de la revue Connaissance des Arts, que vous connaissez certainement, mensuel, numéro d'avril, et exprimer vos émotions, c'est le titre de ce numéro. Alors, en fait, il s'agit de commentaires de peintures qui sont exposées au musée Marmottan et l'exposition est intitulée « Le théâtre des émotions ». Alors je ne vais pas tellement m'apesantir sur cela, mais je vais souligner tout de même l'éditorial de ce même magazine qui fait appel à l'actualité. Et l'actualité, bien sûr, aujourd'hui, c'est le conflit en Ukraine, et il est évident que le monde artistique se sent obligé de participer à, encore une fois, à cette émotion qui, certainement, est fort justifiée. Alors, le grand bandeau de l'éditorial de ce même magazine Connaissance des Arts, c'est « On ne pensait pas que cela pouvait se reproduire ». Alors, évidemment, la suite, c'est l'émotion, encore une fois, sur les images qui sont envoyées de ce conflit. Et, encore une fois, je n'ai pas de position extrêmement critique, si ce n'est qu'on peut quand même s'interroger sur ce « on ne pensait pas que cela pouvait se reproduire », ce qui me paraît comme vraiment, comme titre journalistique, d'une naïveté totale. On ne pensait pas que cela pouvait se reproduire, mais on a oublié les guerres depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il n'y a plus personne pour, je pense, de vivants actuellement, ou très peu qui peuvent en parler et s'en souvenir du déroulement de cette guerre, mais il y a quand même des survivants de l'époque après, ne serait-ce que pour la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, les massacres de Pol Pot au Cambodge, il y a aussi la révolution culturelle de Mao Tse-Tung qui aurait fait 20 millions de morts, et sans parler de l'horrible massacre génocide rwandais, et la guerre en Tchécoslovaquie, l'horrible guerre qu'il y a eu aussi entre l'Iran et l'Irak, et la guerre en Irak, et aussi, on l'a oublié aussi, cette horrible guerre civile qu'il y a eu en Algérie. Et l'Algérie, elle est pour nous un pays qui est plus près que de l'Ukraine. Et apparemment, tout ça est oublié pour, évidemment, une guerre qui est transmise d'une manière assez intense par l'image télévisée, qui nous donne l'impression que nous en sommes des participants, tout en étant évidemment bien lointains de ce conflit. Alors, je ne vais pas épiloguer sur ce sujet, mais c'était simplement cette question d'émotion, d'émotion des images, qui aujourd'hui déborde de l'actualité. Et mon point où je voulais en venir, c'est que cette émotion devient un sentiment généralisé qui est fourre-tout partout. Un mot fourre-tout et notamment qui s'applique à l'art. Alors, par exemple, on a eu des déclarations récentes sur l'architecture par les grands architectes que sont, grands architectes évidemment, entre guillemets, on ne sait jamais ce que l'histoire réservera au sort de nos artistes contemporains, mais Franck Guéry disant que l'essentiel de l'architecture, c'est l'émotion, Jean Nouvel disant la même chose, que son but était de faire de son architecture de l'émotion. En fait, l'émotion est partout. Alors, Boltanski, qui est mort pendant le Covid, et un, entre guillemets, artiste singulier français, et c'était aussi un des titres de Libération, c'était « L'art, c'est les questions et l'émotion, donc toujours l'émotion par rapport à l'art. Alors, je vais prendre une position qui est différente et de penser que l'art, ce n'est pas l'émotion. Et que ce sentiment qui serait l'émotion, alors évidemment les émotions sont des sentiments qui peuvent être divers. D'une manière générale, l'émotion, elle est quand même vécue comme douloureuse. L'émotion heureuse, on en parle un peu moins. En fait, on parle de ces émotions heureuses et de ces émotions douloureuses, pardon. Et ces émotions douloureuses, il semblerait qu'elles soient quand même la carrière caractéristiques de l'art contemporain, et les expositions qu'annonce Connaissance des Arts, c'est justement la partie de l'art ancien qui est justement douloureuse. Et il semblerait que, au vu du rôle que croient avoir les peintres d'aujourd'hui, évidemment, on recherche dans le passé pour avoir des images semblables, et l'artiste contemporain se croit chargé d'une mission de, on peut dire, de rédemption, de cette mission d'émotion douloureuse, de dénonciation des périls que nous sommes en train de subir. Alors, on vient de parler des guerres à l'instant, mais ce serait évidemment toutes les catastrophes à venir, qu'elles soient climatiques, environnementales, etc. Alors, mon propos n'est pas de commenter cela, c'est simplement de dire que ce n'est pas le rôle de l'art, c'est le rôle de la raison, de la philosophie, des journalistes, des écrivains, des politiques, des citoyens, et que l'art, même s'il est en prise avec la société, mais son rôle essentiel n'est pas d'être un commentateur de l'actualité. Alors, laissons la place à ceux dont c'est le métier et prenons, je pense, une attitude un peu au-dessus et qui est justement pas liée à l'actualité immédiate. Alors, je vous parlais des architectes et de l'émotion architecturale, personnellement, je pense que l'architecture, ce n'est pas l'émotion qu'elle donne, mais ce qu'elle doit donner. Elle doit donner, quand il y a une architecture qui est belle, d'abord celle dans laquelle on vit, où on travaille, ce n'est pas de l'émotion, c'est de la satisfaction d'abord. Satisfaction par rapport à la fonction, par rapport à son rôle. Le logement, il doit bien loger. Les lieux de travail, les bureaux, ils doivent être agréables, donner envie d'y aller. Et donc, le rôle de l'émotion, il est ailleurs. De plus, l'émotion, on peut la voir d'une manière totalement différente qui n'est pas liée à l'art. Prenons un exemple qui est lié justement au drame des guerres, et notamment la Deuxième Guerre mondiale avec ce drame de la Shoah. Eh bien, ce drame de la Shoah, il procure, en tout cas, il me procure, et je pense que c'est pour beaucoup d'entre vous la même chose, une émotion qui est difficilement, on peut dire, contenue, tellement c'est quelque chose de tellement horrible singulier, ces familles déchirées, les enfants séparés, cette tranquillité bureaucratique jusqu'à l'extermination dans les chambres à gaz, c'est tellement impensable. Et les représentations de cela qui sont faites à travers les documentaires ou à travers les récits n'ont pas matière à être des objets artistiques. Et je veux dire, les pires photos, les photos les plus médiocres, les commentaires ou les films qui seraient les plus mal montés sur ce sujet, procurent de l'émotion, indépendamment, évidemment, on n'est pas dans l'esthétique et il n'y a pas de finalité artistique à cela. Donc, on peut obtenir aussi des émotions, je ne sais pas, en faisant du saut à l'élastique ou en allant faire de l'alpinisme dangereux, de la varap ou des sports à risque, et automobile ou autre, ça procure des émotions, c'est le choix de chacun, et je ne vois en cela rien d'esthétique. Il y a aussi l'émotion qui est procurée par les films d'horreur, qui est aussi une manière détournée d'éprouver des sentiments, or d'une manière un peu artificielle, et de se créer des sensations fortes. Et tout ça est, je crois, accessible à tout le monde. Et on a des émotions, on peut dire, assez facilement, là, sans grand danger, avec le cinéma ou la littérature, et romans policiers, etc. Et on peut dire que la partie esthétique peut arriver, mais enfin ce n'est pas la finalité. Donc en fait, je voudrais bien dissocier l'émotion de l'art et la finalité de l'art, et c'est je pense un des grands malentendus contemporains, où les artistes se croient être obligés d'être les porteurs de paroles vertueuses dénonçant la guerre, dénonçant les conflits, dénonçant les atteintes à l'environnement, et ce n'est pas du tout le rôle de l'art, et la qualité artistique n'a rien à voir avec on peut dire la vertu supposée de l'intention. Alors, je pense que même l'art, c'est justement ce qui n'est pas cela. C'est-à-dire qu'en fait, que au-delà de la période contemporaine, dans la période où les œuvres sont élaborées, il est important justement de pouvoir voir les mêmes œuvres hors de l'émotion qui est procurée. Par exemple, si on regarde le Parthénon ou les statues grecques, on est loin de la religion que nous ne connaissons mal et que nous ne pratiquons pas, et qui devait effectivement procurer certainement l'appétit de Delphes et autres des émotions aux contemporains de cela, et nous, elle nous procure un plaisir esthétique, et je pense que le mot plaisir me paraît un mot important, un plaisir esthétique, hors justement de l'émotion qui devait être celle de l'époque. Donc, la qualité, on peut dire, de l'œuvre d'art, c'est justement d'être intemporel, hors de sa destination immédiate, de sa destination de son époque. Et justement, cette possibilité de plaisir, de jouissance que donnent les œuvres d'art, on a l'impression que ce mot de plaisir est un mot qui est refoulé aujourd'hui dans notre société doloriste, où justement il semblerait que ce soit les émotions et les émotions douloureuses qui aient la primauté par rapport à cette notion de plaisir qui serait peut-être à refouler. Donc c'est assez surprenant, et je pense que il y a notamment dans l'art contemporain une singularité, parce que c'est un art qui est morbide, et ou un art qui se part de vertu, d'être un art de dénonciation, un art d'imprécation, et on est, je pense, bien loin de ce rôle. Et je pense que l'architecture, qui a, pour revenir à notre sujet central, qui a comme vertu d'être apaisante, d'être justement sereine. Je ne sais pas, personnellement, quand je rentre dans les Jacobins, par exemple, ou Saint-Cernin, je pourrais rester dans notre patrimoine toulousain, mais on peut avoir cette expérience dans tous les bâtiments du passé, ben, je pense qu'on a une impression de sérénité, et ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'œuvres contemporaines qui sont agressives, inquiétantes, et il semblerait que justement le but est de choquer et non pas de donner ce calme, cette sérénité que nous offrent les bâtiments anciens. Voilà, donc ça c'est une première réflexion que je fais par rapport à l'émission. On va faire une pause musicale et nous allons reprendre notre conversation sur ce sujet. Je ne vais pas commenter la campagne présidentielle, ce n'est pas mon rôle, mais je vais prendre à l'écoute d'une émission du candidat des Verts, Yannick Jadot, qui a un ton très convaincant, et c'est un sujet que j'avais déjà abordé, sans parler, encore une fois, de politique générale et sans vouloir non plus entrer dans un débat politique, j'avais simplement noté que lors de cette dernière émission, où il parlait de pollution, et devant les trois journalistes sur Europe qui l'interviewaient, il a parlé de la pollution, et surtout, il a parlé du nombre de morts annuels de pollution. Alors, c'est un sujet dont j'avais parlé déjà, et on avait parlé de 48 000 morts par an, et le président de la République, Emmanuel Macron, avait repris ce chiffre. Là aussi, on peut s'interroger sur la fiabilité des sources, mais là, Yannick Jadot avait franchi une étape supplémentaire. Il a parlé de 50 000, bon, on a arrondi le chiffre, à 100 000 morts. Et puis après, au cours de l'interview, il a dit « Non, mais c'est 100 000 morts !» Et 100 000 morts, c'est un chiffre considérable, il a tout à fait raison sur ce point, et ce serait donc la pollution, serait selon lui la principale cause de mortalité en France. Alors la question que je vous pose sans qu'il soit une argumentation sur les sources plus ou moins fiables et comment elles ont été évaluées. La question c'est, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont morts de pollution? C'est-à-dire que parmi tous les gens que vous connaissez, ou des gens qui, même si vous ne les connaissez pas, parmi vos connaissances, des gens qui auraient autour d'eux des gens qui seraient morts de pollution. Le chiffre de 100 000, si vous le ramenez aux années, mettons sur les 50 dernières années, ça devient un chiffre absolument considérable, hein, sur des millions de morts. Donc on est sur les chiffres des morts de la guerre de 14. C'est quelque chose qui est absolument considérable. On s'en serait tout de même aperçu. Ça remplirait les cimetières et les hôpitaux. Et on meurt de quoi quand on meurt de pollution? Alors ça c'est quand même singulier, c'est que d'une part les journalistes ne l'ont pas repris, que ce chiffre qui est sidérant est donné, mais c'est quoi les morts de pollution? Alors, on me dira, oui, mais il y a les cancers, enfin, les cancers, je connais des cancers de fumeurs, mais ils ne sont pas morts de pollution, ils sont morts d'avoir fumé. Et on sait aussi qu'il y a des cancers industriels, effectivement, des charpentiers, des gens qui travaillent avec le bois, qui ont effectivement des inflammations de la plèvre, je ne sais pas si on peut dire la pollution, mais aux particules avec lesquelles ils sont en contact, qui provoquent des irritations et qui provoquent des cancers. Tout ça, c'est malheureux, mais il y a depuis de nombreuses années, après le scandale de l'amiante notamment, des précautions qui sont fort heureusement prises dans toute l'industrie. Également, on peut dire que la pollution du chauffage, par exemple, a grandement diminué. Ne parlons pas du chauffage au charbon qui est actuellement quasiment supprimé dans nos pays. Il faut rappeler, et on n'a pas besoin d'aller au Moyen-Âge, mais dans mon enfance, je me souviens très bien de Toulouse, il n'y a même pas très très longtemps encore, il y avait du brouillard dans la ville, et aujourd'hui, il y a du brouillard à l'extérieur, mais il n'y a pas de brouillard dans la ville, tellement l'air justement n'est pas pollué. Alors, c'est vraiment assez sidérant, c'est que d'une part, les véhicules automobiles, regardez par exemple les bus qui avant étaient au mazout, et il suffisait d'être en vélo derrière un bus, on avait le visage noirci par le gasoil qui s'échappait des tuyaux d'échappement. Alors, on parlait du charbon avec un nombre de journées incroyable, avec un brouillard qui était évidemment le smog. Par exemple, Londres, il y avait un jour sur deux de l'année où il y avait du smog. Le smog, c'est la contraction de smoke and fog, de fumée et de brouillard. Aujourd'hui, il n'y a plus de brouillard à Londres. On peut dire qu'on a une baisse considérable de la pollution, et c'est très heureux, en tout cas de la pollution aérienne. Alors, quant aux autres formes de pollution, par l'eau, les égouts, là, on est sur aussi une transformation tout à fait bénéfique, extraordinaire. Il ne faut pas s'imaginer qu'avant, la Garonne était un fleuve transparent, poissonneux. C'était un cloaque comme la Seine dans laquelle tout se déversait dans la rivière. Et on avait même des morceaux, paraît-il, à l'Hôtel-Dieu de Paris, je pense que ça devait être la même chose à Toulouse, des morceaux de dissection, d'amputation, de corps humains qui flottaient sur le fleuve. Donc on n'était pas du tout dans une sorte de transparence paradisiaque et de pureté. Alors, à la campagne, par exemple, il n'y a pas encore très très longtemps, il y avait le fumier devant les maisons et il n'y avait évidemment aucune installation sanitaire dans les fermes. Et tout cela, que ce soit les déjections animales, humaines, se déversaient sur la terre et rentraient dans les nappes phréatiques. Et l'eau était effectivement très polluée. On ne l'a su qu'après, que quand on a fait des analyses, qu'en fait de l'eau qui paraissait pure dans ces sources et dans ces fontaines était en fait extrêmement polluée. Et aujourd'hui, il y a fort heureusement, une politique de surveillance très importante qui fait que nous avons de l'eau potable, en tout cas chez nous, ce qui n'est pas le cas, hélas, dans de grands pays extérieurs au nôtre. Alors, il est singulier que si nous avons 100 000 morts par an de pollution aujourd'hui, ben, on devait être je sais pas, à 5, 10 fois plus dans les années précédentes. Donc on peut dire que la population française aurait été balayée comme la grande peste du Moyen-Âge. Tout cela est assez sidérant. Donc, Pour revenir au sujet de l'émotion, puisque c'était l'intitulé de notre émission aujourd'hui, on a cette émotion qui rentre dans la vie politique, et c'est une émotion justement qui est le contraire de la raison. Et donc, me semble-t-il, il serait beaucoup plus judicieux à la fois de distinguer la partie, comme je vous disais, artistique, où ce n'est pas l'émotion qui guide l'art, mais le plaisir, et de retrouver justement cette notion et cette demande qui est du plaisir que l'on peut avoir à la fois dans les beaux bâtiments de l'architecture, que l'on peut avoir en regardant les beaux tableaux, en écoutant de la musique. C'est du plaisir et ce n'est pas de l'émotion. Ou du moins, en tout cas, ce ne sont pas des passions tristes. De même, en ce qui concerne la politique et la vie publique, elle ne doit pas être faite d'émotions. Et l'émotion n'est pas raison. Et on peut obtenir facilement de l'émotion, faire pleurer les gens, surtout avec des mensonges puisqu'on dit aussi des contre-vérités, pour ne pas dire mensonges. En tout cas, pour parler le franglais d'aujourd'hui, avec des fake news. Alors, il serait temps que l'on revienne justement à des paroles plus mesurées, avec des raisonnements qui peuvent s'appliquer à la vie publique, qui peuvent s'appliquer aux productions artistiques, qui peuvent s'appliquer aux échanges entre les gens, et que cette émotion qui nous submerge de partout soit maîtrisée. La vertu avant, c'était pas d'être ému, mais justement de maîtriser ses émotions. Le stoïcisme, c'est justement de ne pas montrer ses émotions. L'expression anglaise « never explain, never complain », ouais, qui pourrait être traduite en français par « arrêtons de pleurnicher et de nous plaindre et de raconter nos problèmes », ça serait un peu cela. Et donc aujourd'hui, il y a une plainte qui est celle des réseaux avec des émotions facilement fabriquées par des images recyclées sur la fin de l'art dans le monde, etc. Tout ça est, me semble-t-il, assez médiocre et on perd en faisant cela justement cette raison et certainement ces vertus de stoïcisme et de réserve de soi qui me paraissent des qualités importantes. Je vous souhaite une bonne semaine.